Bonjour à tous et bienvenue dans cette 24e édition des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Les Clairvoyants, 24e épisode de juin 2016, si je dis pas de bêtises, mon cher Fox, ça fait donc 2 ans qu'on est déjà sur les ondes virtuelles.
Eh oui, ah. Oui, bon anniversaire, Fask. c'est les 2 ans.
On est accompagné cette fois-ci, comme d'habitude, de Thomas alias Archéon, qui nous a bien aidé à préparer tout ça en amont, et notamment au niveau du Focus. Bonjour Thomas.
Et salut vous deux.
Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, Thomas, dans le Focus, justement?
Alors, le Focus, pour suivre celui qu'on a fait sur Fury le mois dernier, on va parler du Shield ce mois-ci.
C'est marrant, parce que le premier Focus qu'on avait fait, c'était sur Hydra, si je me souviens bien. Et donc, la boucle est bouclée 2 ans plus tard. On parle enfin du Shield. On parlera aussi des news en rapport direct avec le MCU. On verra que c'est assez calme en ce moment. Ça devrait redémarrer plus on va se rapprocher de la Comic-Con qui aura lieu quand déjà? J'ai oublié la date.
Je crois que c'est aux alentours du 10 juillet.
On va vérifier. Et puis, pour le reste, on fera le débrief qu'on n'avait pas fait la dernière fois sur Agents of Shield saison 3 en prévision de la saison 4. On écoutera aussi de la musique. On répondra à vos questions. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, on vous fera des recommandations de lecture aussi pour que vous puissiez vous plonger dans les comics et de préférence des comics de qualité. Et on va y aller tout de suite avec la première rubrique dans laquelle on va donc faire le tour des news. C'est notre rubrique True Believers.
I wouldn't say I'm a true believer.
True Believers, les news en rapport direct avec le MCU, et avant tout une petite correction à Fox, puisque pour les dates de la Comic-Con, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure.
Non, je le vois toujours vers le 10-15 juillet, mais en fait ce sera du 20 juillet au soir au 24 juillet.
D'accord, donc on aura probablement plus de news Marvel au début du mois d'août, donc peut-être pas encore pour le prochain podcast, mais pour le suivant. On va commencer tout de suite par la partie ciné. Captain America Civil War fait pour le moment un gros score au box-office, hein. On en est à du 390 000 juste pour les US, 390 millions pardon, juste ouais. Pour les US, et on en est à 1 milliard 132 000 presque 133 millions du côté, pour l'ensemble du monde, ça le situe quand même en bonne place pour aller chatouiller les films de la franchise Avengers cette fois-ci. Hein.
Ah oui, mais on est très très haut. Après, bon, moi j'ai adoré Captain America, mais pour le coup beaucoup disaient que c'était un Avengers bis. Il a fait quand même 34% de son chiffre d'affaires, ce qu'ils appellent en domestique, donc c'est assez énorme.
Ouais, mais alors je voudrais juste réagir par rapport à ça, c'est un truc que j'entends souvent et j'ai un peu l'impression que c'est un argument pour le plaisir d'argumenter, parce que quand il y a des films style Iron Man 3 où il y a finalement pas d'interaction avec les autres personnages, tout le monde râle parce qu'il se passe rien, et quand il y a des films comme le Civil War où il se passe des choses avec plein de personnages de l'univers, les gens râlent parce que c'est plus un film Captain America. Donc à un moment il faudrait choisir.
C'est la vision du grand public qui disait il y a plein de persos, c'est une espèce d'Avengers bis, on va aller voir.
Mais j'ai entendu des gens râler en utilisant ce prétexte là, je trouvais ça quand même un petit peu fallacieux.
Il y a bien des gens qui râlent parce que Hawkeye est toujours pas mort, hein, il en faut.
C'est pas cool de dire ça quand tu peux pas répondre. donc oui, on va pas s'étendre, hein, ça cartonne, on n'est pas vraiment surpris, et ça laisse présager de bonnes choses pour la suite de la carrière des frères Russo dans le MCU.
Et puis on a les Blu-ray qui vont arriver aussi.
T'as une date?
Non, ça a pas été annoncé, non. Il est déjà dispo sur Amazon si tu veux, en précommande, mais attends, on est en avril, il devrait sortir c'est 3 mois maintenant, 2 mois et demi, 3 mois, donc dans l'été, hein. Je pense au mois d'août.
Ok, alors, écoute, on vérifiera d'ici là s'il y a une date officielle annoncée, on vous le dira en tout cas. Ouais. Du côté de Doctor Strange, pas grand chose de neuf, en dehors d'une vague campagne de marketing virale qu'on a eue avec un pauvre JPEG qui était donc soi-disant publié par le WHI. Itch, hein, c'est la chaîne de télé, ouais. C'est ça, hein, le World Quarter, je sais pas quoi, Information, machin, qui est donc la chaîne de news officielle du MCU, et qui donc parlait de Manhattan Miracle avec une interview, donc a priori de Doctor Strange. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de papier derrière, il n'y avait pas de vidéo ou quoi que ce soit, c'était juste un tweet un peu random, et sinon on n'a pas eu de nouvelles concernant Doctor Strange depuis la sortie du trailer le mois dernier. Dès qu'on en a, évidemment, on vous en fera part. Guardians of the Galaxy 2, on a par contre quelques news.
Ah oui, c'est la fin de tournage pour Kurt Russell, mon bon Fasque.
Voilà.
Il est venu, il a vaincu, il est reparti, et j'en peux plus d'attendre.
Et apparemment, tout le monde est très content de lui, donc je pense que ça s'est très bien passé.
Kurt Russell, c'est un papa du cinéma d'action, c'est un papa du cinéma tout court, donc quand il se pointe quelque part, généralement, il est toujours apprécié.
C'est Jack Burton, quoi.
C'est tellement plus que ça, je veux dire, j'aimerais tellement le voir en père de Peter Quill à se battre avec Yondu parce que c'est l'histoire du père et du père adoptif. Mmh. Tu as un bon gros saligo comme il a pu le jouer dans Hateful Eight par exemple, ça va être très très bien ça.
Et puis cinéma toujours avec Spider-Man, puisqu'on a eu deux news. Alors on a d'abord une news un peu contradictoire qui parlait d'abord de l'arrivée de Michael Keaton en lice pour le rôle d'un Big Bad, puis ça avait été démenti, on vous en avait parlé le mois dernier, et apparemment il serait de retour, en tout cas dans la chambre des négociations. Donc toujours pour jouer le rôle d'un bad guy dans Spider-Man Homecoming en 2017. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter là aussi, on vous le confirmera. On veut le vautour, oui, mais on confirmera dès que ce sera signé. Faut savoir que la source est Variety et que donc bah il y a des chances quand même que ce soit une source relativement bien informée. Donc a priori, on peut miser plutôt gros sur Michael Keaton dans le MCU très bientôt, en tout cas en 2017. Et puis Spider-Man toujours, on a appris le cast de Michael Barbieri, que je ne connaissais pas du tout, qui est un jeune acteur et qui apparemment jouera le rôle d'un pote de Spidey, de Peter Parker, on ne sait pas encore qui, puisqu'il n'y a pas eu d'informations. En tout cas, moi, j'en ai pas vu passer, Fox.
Non, ça va être... Je pense qu'ils vont le mettre en sidekick pour donner un petit peu plus d'humanité à ce jeune Peter qui devient carrément Spider-Man. Donc, à voir. Peut-être qu'on aura une surprise et qu'on va avoir un Brock popé dans de ses os, tu vois, juste montrer ce qu'il faut, mais sans dire que ce serait un futur Venom, ce qui serait drôle, mais...
Je serais assez pour.
Ah, je serais totalement pour aussi, hein, je te rassure, mais on verra.
Cinéma toujours avec Thor Ragnarok, prévu lui aussi pour 2017. On a eu un paquet de news concernant le casting, et pas des moindres, hein, puisque Jeff Goldblum rejoint le cast dans le rôle de Grand Master. Alors, est-ce qu'on peut vite rappeler en deux mots qui est Grand Master et pourquoi c'est parfait que ce soit Jeff Goldblum qui l'interprète?
On va faire ça en deux temps, Fasque, déjà, parce que le MCU vient de gagner le jeu du cinéma en allant chercher Jeff Goldblum.
Ça, c'est clair, on peut tout arrêter là.
Ouais, c'est bon, on peut fermer, les mecs, DC, Fox, essayez plus, c'est bon, on a Jeff Goldblum, niquez-vous. Alors, qui est le Grandmaster? Le Grandmaster, c'est une des entités suprêmes de l'univers.
Rien que ça.
Ah oui, c'est l'une des plus grandes entités de l'univers. Il est de la même race que du Collector.
D'accord.
Et lui, il a une particularité, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le Grand Master, dans tout ce qu'il fait, il fait des paris en fait. Donc il parie par exemple avec Thanos, il parie que les héros de la Terre vont pouvoir lui défoncer la tronche. Mmh. Thanos parie que lui, avec son équipe de super-vilains, donc c'est là que c'est la théorie qu'on avait des personnages, des méchants enfermés dans les Infinity Stones peut être intéressante, parce que lui, il montrait son équipe de super-vilains contre l'équipe des Avengers, et c'est celui qui gagne un prix. Alors le prix, des fois, c'est le contrôle de l'univers, des fois, c'est des pouvoirs, des fois, c'est un vœu exaucé. Le Grandmaster, c'est un parieur né, c'est un parieur cosmique, il gagne quasiment toujours, si c'est pas tout le temps, et le faire jouer par Jeff Goldblum, enfin, je trouve ça fabuleux, quoi. Parce que Goldblum a ce côté un peu filou, passif-agressif, nonchalant, et ça va être assez formidable de le voir dans ce rôle-là.
Encore une fois, un gros boulot de casting chez Marvel Studios, et puis on continue avec la liste des acteurs qui seront donc présents à l'affiche de Thor Ragnarok, puisqu'on a donc confirmation de la présence de Kate Blanchett, mais ça on le savait déjà. En revanche, on sait maintenant qui est l'interprète, qu'il s'agira d'Ella. C'est marrant, on en avait déjà parlé un peu. Donc Ella, on rappelle en deux secondes.
Ella, la déesse de la mort, entre guillemets, qui
voilà,
qui
rien que ça qu'on pensait déjà voir dans Age of Ultron, en fait.
Voilà, qui est une immense ennemie de Thor, qui est aussi à la source d'une grande malédiction qu'il a poursuivie pendant des années, qui était la malédiction des eaux fragiles, qui avait forcé Thor à s'enfermer dans une armure d'écailles qu'on voit déjà dans Avengers, puisque ce qu'il a autour de ses bras, c'est une réminiscence de ce truc-là, de cet arc des années 90 où Thor était entièrement enfermé dans cette armure, parce que s'il la portait pas, ben, le pauvre, il avait la maladie des os de verre, il tombait en morceaux, quoi. Il se brisait lui-même.
Voilà, donc Kate Blanchett dans le rôle de Ella dans Thor Ragnarok aux côtés de Jeff Goldblum qui interprétera quant à lui
The Grandmaster.
Voilà, The Grandmaster. Et puis on a aussi
Karl Urban.
Et puis on a aussi Karl Urban qui va venir rejoindre le cast pour interpréter Scourge.
Ouais, Scourge, le demi-géant demi-géant, c'est un demi-géant des glaces, qui lui par contre va être certainement le game changer du film, parce que il va se retourner certainement à un moment pour aider Thor et Asgard à sauver ce qui peut être sauvé pendant le Ragnarok, donc ça peut être vraiment cool.
Et puis dernière annonce casting concernant Thor Ragnarok, Tessa Thompson, qu'on avait déjà vu dans Creed, qui va interpréter un perso qui était très très attendu pour ce troisième opus, c'est Valkyrie.
Ah oui, Valkyrie.
On parle d'un nouveau love interest pour Thor en lieu et place de Natalie Portman, qui a décidé d'abandonner son personnage de Jane Foster dans le MCU. Et donc forcément, il faut retrouver un love interest pour l'ami Thor. Quoi de mieux que Valkyrie?
Oui, Valkyrie, c'est bien comme love interest, mais quand on a Jane Foster à côté et que malheureusement l'actrice se barre, c'est sûr que ça a dû les mettre dans la merde.
On n'est pas sûr, hein. Moi, c'est même sûr. Je la vois pas à l'affiche, elle est pas annoncée pour le moment, donc je doute qu'on la voit.
Peut-être qu'elle sera, elle est juste pas dans le film parce qu'elle est occupée à faire autre chose. On sait qu'on aura Selvig. Ça, c'est sûr que Selvig, il va être là parce que c'est lui qui maîtrise le mieux les portails dimensionnels et les portails qu'on a pu voir dans Thor: The Dark World, par exemple, qui vont permettre à certaines au Bifrost de ramener tout le monde, mais là ouais, s'il y a pas Natalie Portman mais qu'il y a un nouvel love interest, ça peut être intéressant quand même.
On verra, écoute, on commencera à avoir plus d'infos à partir du 4 juillet, puisque c'est la date à laquelle le tournage va commencer.
On verra
en Nouvelle-Zélande donc de ce troisième volet des aventures de Thor. Et puis on va rester toujours dans le cinéma avec une rapide news casting concernant Black Panther, puisque c'est Michael B. Jordan qui l'a annoncé lui-même, il a rejoint le cast du film. Alors c'est assez rigolo parce que Michael B. Jordan, c'était la torche humaine dans les Fantastic Four de la Fox, hein. Et donc bah, ça a calmé un petit peu les ardeurs de tous ceux qui envisageaient un rapprochement entre le MCU et le Marvelverse de la Fox, hein, puisque bah, là on a carrément un transfuge au niveau casting, donc il est fort peu probable que ça annonce des croisements futurs. On n'a pas d'idée encore sur son rôle, hein.
On a une idée légère avec Archeon, on en discutait, mais ce serait certainement un mélange entre White Wolf dont on a parlé dans le Focus Black Panther et Killmonger.
D'accord.
L'idéal, en fait, on peut pas amener White Wolf comme ça. Moi, j'adorerais qu'on ait White Wolf, donc un homme blanc élevé par le roi du Wakanda qui veut voler le trône et qui pète un câble.
Mais pour le coup, ça correspond pas. Michael B. Jordan ne pourra pas faire le rôle.
Non, Michael B. Jordan pourrait pas, sauf qu'il serait très bien en Killmonger, qui est un Wakandais qui a été banni. Par contre, mélanger Killmonger, donc le côté méchant et les pouvoirs de Killmonger avec les motivations de White Wolf, qui est le frère, donc on aurait un frère black et pas un frère blanc, bon, ce serait peut-être un peu plus... ça serait correct, ça tiendrait vraiment la route, quoi.
On verra, on en saura probablement plus, mais pas tout de suite, hein, puisque Black Panther, c'est pas avant 2018, donc on a encore le temps de voir venir. 2018 aussi, c'est Avengers Infinity War, donc la première partie du troisième volet, ça devient compliqué, de la franchise. Première bonne nouvelle, c'est le retour d'Alan Silvestri du côté de la bande originelle, et ça, c'est vraiment cool. C'est lui qui avait signé l'excellente première bande originale du premier film Avengers. Il avait disparu pour la suite, c'était Brian Tyler qui avait pris la relève, et puis là il est de retour et on est content parce que c'est vraiment un compositeur hors pair qui a vraiment une patte et un nez pour dénicher des thèmes qui marquent, donc ça risque d'être assez sympa. Enfin, je sais pas, en tout cas,
c'est de la trompette.
Voilà, exactement. Et puis on reste sur Infinity War avec une petite déclaration assez anecdotique mais rigolote de Josh Brolin, qui est manifestement très emballé par l'histoire du film et qui dit que bah, il a jamais eu autant de sollicitations que depuis qu'il a repris le rôle de Thanos dans le MCU, alors qu'on l'aperçoit à peine à la fin du premier film Avengers, qu'on le voit vaguement dans Guardians of the Galaxy et qu'on le revoit de nouveau tout à la fin du Age of Ultron. Manifestement, rien que ces petites prestations très courtes lui ont valu déjà un certain retour du fandom, on va dire.
Ah bah il est adoré, on l'a vu déjà à la Comic-Con quand il s'est pointé avec l'Infinity Gauntlet, la foule était en délire. Lui-même prend énormément de plaisir, bizarrement, on en discutait avant de préparer l'émission, mais le mec on le voit pas, il donne quasiment pas d'interview vu qu'il a pas de rôle en gros, mais le mec est tellement motivé, tellement content d'incarner le plus grand méchant de Marvel que le mec il continue à kiffer et il le montre et il en parle, il aime ça, quoi.
Je lui promets un gain de popularité encore plus énorme d'ici 2018, à mon avis. C'est ça, ça va pas louper. Captain Marvel, rumeur de plus en plus insistante concernant le rôle titre du film, puisqu'on parle bah, manifestement de plus en plus de Brie Larson,
ouais.
Que moi j'aime beaucoup et qui me convient parfaitement dans le rôle, on va dire, de Carol Danvers.
Ouais, ben c'est intéressant de voir que le projet Captain Marvel commence enfin à aboutir et qu'on a vraiment quelque chose. Moi c'est un film que j'attends. on voit la bataille Captain Marvel. De toute façon, ils sont obligés de faire quelque chose aussi avec Captain Marvel parce que DC Comics veut récupérer le nom Captain Marvel pour le remettre sur Shazam.
Pour Shazam, ouais.
Ouais, même si je préfère le nom Shazam au final, mais c'est intéressant de voir une actrice qui est sur un répertoire beaucoup plus classique partir encore une fois vers le MCU et devenir Carol Danvers, l'une des héroïnes les plus badass de toutes les héroïnes de Marvel. Mm. Je trouve ça bien. Je suis content. Faudra voir la réalisatrice maintenant, mais.
Alors on n'a pas d'infos concrètes de ce côté-là. On a pour le moment que des rumeurs, donc on va pas en parler.
Elle s'appelle donc la réalisatrice. Si la rumeur comme quoi elles ont le même prénom est vraie, elle ouais. s'appellerait Brie aussi.
Ouais, mais là je vois pas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. Mais là pour le moment, moi je sèche. Captain Marvel, donc il y a un film important pour Marvel puisque c'est le premier film avec une lead féminine depuis le lancement du MCU. C'est quand même pas rien et on va dire qu'il était temps. Et on va enchaîner en restant dans la même thématique puisque Kevin Feige, donc le big boss de Marvel Studios, a réaffirmé et confirmé que le film Black Widow était effectivement bien en phase initiale de développement chez eux. On sait ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'on le verra pas sur les écrans avant probablement 5-6 ans, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en chantier. Bah voilà, on savait comme par exemple au début du MCU en 2005-2006, enfin quand ils ont commencé à bosser dessus, que le film Black Panther était en projet aussi, il sortira finalement en 2018, donc on sait qu'on a encore un peu le temps. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils y pensent, qu'ils y réfléchissent, et qu'en tout cas, apparemment, d'ailleurs d'après des déclarations assez récentes de Joss Whedon, qui saluait la pugnacité de Kevin Feige, qui a eu beaucoup de mal manifestement à vendre le film Captain Marvel au pont de Marvel Entertainment à l'époque et puis de le revendre de nouveau à Disney quand ils sont passés sous le giron de Disney, manifestement il s'est bien battu et il a vraiment envie que Marvel commence à sortir des films de super-héroïnes aussi, ça c'est plutôt cool. Et on va rester avec les super-héroïnes mais du côté de la télé avec une mauvaise nouvelle puisque la série Agent Carter qu'on pouvait voir sur ABC a été annulée.
Non.
Non, si, c'est vrai.
Signez cette putain de pétition, ramenez-moi ma Peggy.
Alors oui, il y a une pétition pour récupérer la série sur Netflix, je crois moyen.
Je sais, mais je veux ma Peggy.
Voilà, c'est dommage parce qu'on avait, on nous avait promis qu'on pourrait voir comment a été créé le Shield, en fait. Voilà, c'est ça. Et finalement, on n'y aura pas droit. Peut-être dans des one shots qui pourraient revenir du coup à l'ordre du jour. On n'en sait rien pour le moment. Mais en tout cas, John Carter, pour le moment, la série est morte et enterrée après deux saisons. Avec une deuxième saison, je vais quand même pas.
Mi-fig, mi-raisin.
Ouais, voilà.
Mais j'ai quand même beaucoup plus apprécié que la première parce qu'il y avait un peu plus d'action, il y avait beaucoup d'humour. Aussi, on a vu un peu plus de la personnalité de Peggy, on en a appris plus sur Jarvis. Enfin, moi, j'étais globalement très emballé par cette deuxième saison, que j'ai trouvé meilleure que la première. Après, malheureusement, le manque de structure sur la deuxième partie de la série, donc les quatre derniers épisodes, était pas ultime et l'intrigue était pas ultra bandante par moment, mais franchement, j'accrochais tellement que j'étais passé largement outre.
Ouais, une plutôt cool série qui a pas réussi à trouver son public, donc si vous l'avez jamais maté, allez-y, jetez un œil à Agent Carter. Il y a deux saisons de quoi, 8 épisodes, 8 dans la première et 10 dans la deuxième, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Donc, voilà, rattrapez votre retard et peut-être, qui sait, qu'on reverra Peggy Carter pointer le bout du nez sur Netflix prochainement. On vous tiendra au courant si c'est le cas. Et on va finir cette section de news avec une news rapide sur Jessica Jones puisque la bande originale est sortie. Elle est disponible en vente, en dématérialisé sur Amazon et un peu partout aussi d'ailleurs. Donc, si vous voulez vous procurer la bande son de la série Netflix sur Jessica Jones, eh bien, ruez-vous chez Amazon. Elle est dispo.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale de ce podcast des clairvoyants, une plage musicale tirée d'une des bandes son d'un des films du MCU ou d'une série éventuellement. Là, pour le coup, on est reparti à l'origine du MCU avec le premier film Iron Man, un extrait de la bande son signée Ramin Djawadi, Driving with the Top Down, qui a été choisi par Thomas. Une raison particulière?
Ah, la première des raisons, je vais pas le cacher, c'est qu'on commence à avoir fait pas mal le tour et ça devient compliqué de choisir.
C'est ça.
Et la deuxième, c'est que c'est quand même le thème qu'on a quand Stark téléphone à Rhodey, en fait, et qui lui fait croire qu'il est en train de rouler sur la côte avec sa bagnole, le toit ouvert.
C'est ça.
Alors que le mec est en pleine tenue d'Iron Man, en train de défoncer du terroriste et de faire la course avec des jets de l'armée. Donc je me suis dit, c'était un chouette rappel. Et puis le thème est cool, donc allons-y.
Voilà, un bon morceau pour démarrer, pour attaquer cette section musicale des clairvoyants. Ramin Djawadi, donc Driving with the Top Down. Driving with the Top Down, à l'instant tiré de la première, de la bande son du premier Iron Man, c'était Ramin Djawadi.
The Tesseract has shown me so much, it's more than knowledge, it's truth.
Avengers, c'est pas l'heure, notre séquence récap, théorie crafting et spéculation foireuse. Ce mois-ci, on a décidé de parler d'Agents of S.H.I.E.L.D. puisqu'on n'a pas encore vraiment dressé le bilan de la série, puis elle s'est terminée entre-temps, donc ça c'est parfait, maintenant on peut en parler. De cette saison 3, donc comme d'hab, spoiler warning, si vous n'avez pas vu la série, faites gaffe, on va spoiler dans les largeurs. Alors Monty Fox, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette saison 3, d'abord d'un point de vue critique ?
Alors, d'un point de vue critique, honnêtement, on est... à mon sens, sur la meilleure saison des Agents of S.H.I.E.L.D. depuis le début.
Carrément.
On a tout défoncé au final. On est parti sur une saison 2 qui était un peu en demi-teinte et qui s'est améliorée. Et là, on est démarré dès le début de la saison 3. On a démarré très fort avec une double intrigue sur les Inhumans, sur Hydra qui revenait, sur ce nouveau monde qu'on ne connaissait pas. Il faut quand même dire que l'épisode de mid-season était juste du même tonneau qu'un season final. Parce que avec Coulson qui se jette comme ça depuis l'hélicoptère directement dans le puits, toute la partie justement sur Hydra qui essaye d'ouvrir ce portail vers l'autre monde, c'était très 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 comment dire, il y avait beaucoup d'action en fait, il y a eu beaucoup d'action. En même temps, on récupérait des Secret Warriors et on montait le truc, les petits épisodes respiration justement, par exemple l'épisode au Mexique pour aller récupérer Yo-Yo, ils apportaient tous quelque chose. On était dans une traque permanente entre Malik et ses hommes qui essayaient de récupérer, d'enlever des Inhumans, l'intrigue avec Lash qui était quand même super violente, faut bien le dire. Sur juste une demi-saison, on avait déjà énormément d'informations et on avait énormément de choses intéressantes. Ça a redémarré un peu lentement jusqu'à ce qu'on voit juste la tronche de Ward apparaître et découvrir qui était Ward, donc ce célèbre Hive. Moi ça m'a troué le cul. On a eu des petits ralentissements vers février mars, enfin vers juste la reprise quoi, juste le début de la reprise en mars en fait. C'était un peu remise en contexte, il fallait se relancer, il fallait réexpliquer un petit peu et développer sur qui était Hive. Mais surtout l'intrigue la plus importante, c'était Fitz et Simmons, je suis désolé. Agents of Fitz, mec, depuis le début jusqu'à la fin.
Ouais.
Combien de fois on a cru qu'on n'allait pas revoir Gemma, qu'on a cru qu'elle allait mourir, qu'on a cru que Fitz allait mourir. Non, vous pouvez pas nous faire ça à un moment, c'est dur.
Ouais.
Non, personnellement, j'ai adoré. Voilà.
Moi, je serais quand même un petit peu plus mitigé globalement sur cette saison 3. Je trouvais qu'il y avait plein de bonnes pistes, plein de chouettes trucs qui finalement n'étaient pas bien explorés ou pas explorés suffisamment longtemps. Tu parlais de l'âge tout à l'heure. Ah, je trouve qu'on le voit finalement pas beaucoup, hein. On le voit un petit peu au début et puis à la fin il sert surtout de plot device. Toute la partie Inhumans, oui, ok, d'accord, même si le final pour moi m'a semblé un petit peu artificiel. C'était très bizarre parce qu'en fait on assiste à la mort d'un personnage qui était un personnage récurrent dans la saison 3, mais qui n'est pas un personnage avec lequel moi j'avais développé une affinité particulière et avec lequel j'avais pas le sentiment non plus que les autres avaient développé quoi que ce soit comme rapport un peu proche et un peu intime. Et donc du coup ce final était très bizarre, parce qu'on avait d'un côté les persos qui chialaient machin etc parce que l'autre était mort et qui en même temps disaient adieu à Ward dans ce rôle de Hive comme tu le disais tout à l'heure. Donc on savait pas trop si c'était un adieu à Brett, c'est Brett Dalton, c'est ça, hein,
Brett Dalton.
Si c'était un adieu du cast à Brett Dalton ou si c'était, enfin c'était très bizarre, il y avait une espèce de truc un peu dissonant à la fin qui m'a gêné.
La fin est vraiment particulière parce que on peut dire qu'il meurt, hein. On vous l'a annoncé dès le départ, ça va spoiler, donc on va vous dire qu'il meurt à la fin.
Voilà.
Mais le Lincoln comme personnage, moi je m'étais pas vraiment attaché à lui, mais je comprenais ses motivations. Il était pas au Shield.
Mais tu trouves pas que c'était un peu grand guignol quand même ce final pour un perso qui finalement avait pas tellement d'importance, enfin qui avait pas réussi à gagner le cœur des fans, je crois.
Il a pas gagné le cœur des fans. Il avait pas gagné le cœur de l'équipe. Le mec était, je trouve que justement c'était particulier certes, mais c'était assez cohérent au final, hein. Parce que le mec était pas là pour le Shield, il était pas là pour la Grande Guerre, il était pas là pour la juste cause, il était là pour Daisy, uniquement pour Daisy. Hein.
Oui, c'est ça. Le mec aussi à la base.
Le mec, c'est pour ça que quand tu parlais de Lash justement qui est sous-exploité. J'ai bien aimé cette idée en filigrane tout au long de la saison que chaque Inhuman est là pour une raison précise. Et autant Lash, ça fait un plot device un peu rapide et je m'attendais à ce qu'il défonce Hive à la fin. Mmh. Et au final, bon, bah, il était juste là pour sauver Daisy. Mmh. Mais Lincoln, lui, c'est assez simple. Le mec était là pour sauver sa meuf et pour avoir sa meuf avec lui. Il voulait la protéger, il voulait faire quelque chose. Et il se cherchait lui-même tout au long de la saison 2 déjà, quand il était au refuge. Il se cherchait, il apprenait à Sky à devenir Daisy, à devenir Tremor avec ses pouvoirs et le reste. Mmh. Là, tout ce qu'il voulait faire, c'était trouver sa voie. Il a trouvé sa voie en sachant que c'était qu'il y avait que lui qui pouvait en finir avec Hive. Et au final, ils sont balancés dans cette scène où il n'y avait pas de haine en fait.
Ouais, je sais.
Chaque Inhuman c'était là pour une raison et ils n'avaient plus aucune chance. Et Hive, tout ce qu'il voulait, c'était une connexion avec des gens.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça un peu anticlimatique, comme disent nos amis anglo-saxons, un peu baudruche qui se dégonfle à la fin.
Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est moins. C'est pas grandiloquent. C'est pas la fin de la première saison
où la fin de la deuxième saison était assez chouette aussi. Bref, enfin, tout ça c'était pour l'aspect critique, on va pas s'étendre, c'est pas non plus notre boulot, mais je voulais quand même qu'on en parle et qu'on donne notre ressenti sur cette saison 3. Maintenant qu'on sait qu'il y en aura une quatrième l'année prochaine, probablement la dernière d'ailleurs.
Ah bon?
Je pense, oui. Bah, les audiences sont quand même pas terribles. Je pense que là, Disney, ABC, Marvel, tout le monde pousse un peu, mais que... Comme en plus on voit que ça se détache de plus en plus, ou en tout cas pas que ça se détache, mais que ça devient de plus en plus indépendant et autonome du MCU central qui se déroule au Cinoche.
C'est le seul reproche que j'aurais à faire sur cette saison de Agents of S.H.I.E.L.D.
Ah bah pour le coup, il n'y a aucune connexion.
Il
n'y
a aucune connexion avec Civil War. C'est à peine mentionné, c'est des très vagues références. Alors que normalement, enfin, je veux dire, ça devait servir aussi d'être un setup, un support pour justement ces choses-là. Est-ce qu'on aura un setup sur Nomad et un support de Coulson à Captain vu qu'il est un fidèle indétrônable du Cap, on sait pas. Mais moi ça m'a fait un peu chier de pas avoir un message, je sais pas, ne serait-ce qu'un filigrane de Coulson qui reçoit un message du Captain et qui lui fait si vous avez besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, je suis là, mais je suis bien en vie, et si vous avez besoin de quelque chose, vous nous appelez, on sera là pour vous aider quoi qu'il arrive.
Tu es en plein fantasme, mon pauvre Fox.
Évidemment que je suis en plein fantasme, mais c'est mon fantasme, je veux revoir Coulson et Captain et faire no kiss.
Bah comme le disait Thomas, au final on se retrouve avec une série qui a plus vraiment trop de raison d'être en fait, hein, puisque le film Inhumans a été reporté à on ne sait pas quand et on ne sait pas du tout ce que ça va avoir comme connexion avec la série. Hydra c'est globalement fini, donc
Hydra est démantelé.
Encore une fois, c'est pas la première fois que c'est le cas et c'est pas la dernière fois que ça recommence, mais du coup je sais pas trop à quoi va servir la série en saison 4, donc on verra. Quelques pistes en fin de saison 3, hein, l'arrivée d'un truc qu'on croyait déjà présent dans l'univers mais qui n'avait pas encore été clairement explicité, ce sont les LMD.
Ouais, les Life Model Decoy.
Voilà, les Life Model Decoy dont on parle très rapidement à la fin du dernier épisode. Est-ce que ça va être l'artifice utilisé pour ramener ce bon vieux Brett Dalton dans le cast, tu crois? Moi je serais déçu quand même si c'était le cas.
Je vois pas l'intérêt de rajouter...
Parce que ça a quand même été le big bad de la saison... Enfin, un des big bad de la saison 1, ça a été le big bad de la saison 2, ça a été le big bad de la saison 3 sous une autre identité, et maintenant ça va de nouveau être le big bad en LMD assassin.
Ward est mort, pourquoi il donnerait le visage de Ward à une LMD
Pour continuer à embaucher l'acteur, j'en sais rien, mais j'ai un peu peur d'un twist
Non, par contre, je pense très honnêtement qu'il va falloir... Cette prochaine saison, je pense qu'elle va s'orienter en deux temps, d'un côté sur la traque de Sky, enfin de Daisy, parce que moi je l'appellerai toujours Sky, mais c'est mon côté Coulson qui ressort, mais la traque de Daisy qui est en train d'aider les familles d'Inhumans et les Inhumans qui ont été capturés et on sait pas trop où elle va et on sait pas trop ce qu'elle veut faire. Et de l'autre côté on va avoir une grosse intrigue avec Fitzsimmons et le Docteur sur les Life Model Decoy. Et je pense, alors c'est un truc qui m'a sauté au visage pendant la fin de la saison 3, c'est que je pense que Stubib est le père de notre ami Fitz.
Ah oui.
Je pense qu'il est le père de Fitz.
Tu regardes trop de soap opera, Fox.
Non, je ne regarde pas trop de soap opera, mais je sais pas, c'est aussi cousu de fil blanc que le hacker dans Arrow et le père de Felicity, tu vois, ça se voit trop, je me dis, est-ce que ce serait pas son père? Et parce que Fitz parle tout le temps de sa mère, il parle qu'il a été élevé par sa mère, il parle de sa grand-mère, mais il ne parle jamais de son père.
Ouais. enfin, il y a aucun indice qui va dans ce sens-là pour le moment, donc ça risque du coup d'être un petit peu
l'intérêt malsain qu'il a pour Fitz dès le début, en fait.
Ouais. Et... ouais.
Je sais pas, mais les life model decoy, ça va être intéressant parce que
ouais, vraiment.
Fury et ses life model decoy quand même.
Ouais, mais Fury est plus.
Fury est caché. Je sais pas. Fury était là, il était là sur Age of Ultron, donc il est là, il est pas loin.
Je sais pas, je suis pas super super optimiste pour cette saison 4.
Et puis qui est le nouveau directeur du film?
Ouais, moi je pense qu'ils vont aller chercher Cobie Smulders. Depuis le temps qu'ils disent qu'ils vont la faire jouer de manière récurrente dans la série, elle a plus rien sur le feu. C'est le moment jamais de s'en servir et de faire revenir Maria Hill dans la série, ce qui pourrait peut-être enfin avoir un peu d'intérêt. Mais Cobie Smulders en récurrente, carrément. Pourquoi pas. Mais sinon, moi la seule chose qui me fait un peu peur, c'est quand tu regardes les sorties ciné qui correspondront donc à cette saison, saison 4. On a quoi? On a Doctor Strange en fin d'année, et je vois pas trop la connexion avec Agents of S.H.I.E.L.D. On a les Guardians of the Galaxy 2, on a Spider-Man, et on va avoir Thor, mais Thor ce sera fin d'année 2017, donc ce sera déjà, la saison 4 sera déjà terminée, donc il reste quoi? Il reste Spider-Man éventuellement pour faire une connexion avec le MCU. Je vois pas ça arriver, surtout
niveau
que
connexion,
ça impliquerait Sony, du coup ça commence à devenir compliqué parce que ça va impliquer Marvel Studios, Marvel Télévision, Sony, avec d'un côté Disney qui aura son mot à dire aussi probablement, enfin ça va commencer à devenir un vrai bordel. Donc je sais pas, je vois pas de connexion se rapprocher entre le MCU au ciné et Agents of S.H.I.E.L.D. en saison 4, et ça me désole.
Ça me désole aussi parce que moi, dans un monde idéal plein de fleurs, de chocolat et de pain dans la tronche, j'aurais aimé qu'il y ait une connexion avec les séries Netflix quelque part, qu'on parle un peu de New York, qu'on parle un peu de Luke Cage, de Jessica Jones, de tous ces super-héros qui ne sont pas des Inhumans, justement. J'aurais aimé qu'on avance un petit peu sur peut-être l'arc d'Asgard, mais Thor est loin. Thor c'est 2017, donc on n'est plus très loin de 2017, ok, mais est-ce que ça va parler de Thor? Est-ce qu'on va avoir un retour de Lorelai, par exemple,
qui pourrait
venir? Mais les cris sont morts, les cris sont partis, Hive a été vaincu, donc il n'y a plus de raison trop d'avoir des cris pour avoir une relation entre Asgard, les cris et les Guardians, donc on est un peu limité aussi.
Ouais.
Spidey, ça reste une option dans le sens où le Shield pourrait encadrer quelque peu ou surveiller ce jeune super-héros pour les ordres de Maria Hill qui travaillerait avec Monsieur Stark.
Ouais, moi j'y crois pas une seule seconde, mais bon, on peut toujours rêver.
Non, mais c'est dans l'idéal. Hein. Après, je pense que ça va rester vraiment une série standalone maintenant, et qu'elle va. J'ai peur qu'elle meure de sa vilaine mort, en fait, d'un désintérêt total et d'un manque de plaisir et de jonction avec le ciné, quoi.
Et puis dernière question concernant cette saison 4 de Agents of S.H.I.E.L.D., que va-t-il advenir de notre couple infernal, Bobby et Lance, parce que
Bobby
la série
mort,
dans laquelle ils étaient supposés apparaître a été annulée, donc
dynamité.
Du coup ils se sont fait sortir de la première série et on sait pas trop comment ils vont les faire rentrer.
Ah mais c'est je veux dire, s'ils vont pas nous chercher Mockingbird et Nick Blood, parce que moi c'est pas, il s'appelle pas Lance Hunter, moi ce sera toujours Nick Blood, le mec il a un nom de super-héros, c'est, il le porte avec fierté, tant pis quoi. C'est non, mais c'est, je veux dire, ce couple-là était une super dynamique, était vraiment intéressant.
Clairement.
Il apportait quelque chose à la série en plus. Donc le côté badass et le côté vraiment romance au milieu des bastos. Et là, ils nous les ont arrachés pour en faire une série. Et après, ils les jettent comme des merdes parce qu'il y a deux exécutifs. Oh, non, mais en fait, non, on va pas faire de série, c'est nul.
Tu penses qu'ils vont revenir en saison 4 ou pas?
J'aimerais. C'est, moi, franchement, ils font pas. Most Wanted. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu jettes deux acteurs aussi talentueux et intéressants qu'eux, et populaires. Ils ont tout, je veux dire, ils sont plus populaires que, bon, ok, il y a Mac. Mais Mac, il a une relation de ouf avec Lance Hunter. Il a une relation de ouf avec Bobby, où on a même cru que c'était du love interest à un moment, alors que c'est vraiment une grosse amitié qui lie les trois. Il se retrouve tout seul parce que maintenant que Daisy est partie, a wall, comme on dirait en langage militaire, maintenant qu'elle est hors de contrôle, ben Mac est tout seul. Fitzsimmons a son arc, May et Coulson ont leur amitié qui leur permet de gérer le Shield et qui donne lieu à certains trucs. Mais Mac est tout seul. Mac est tout seul. Je veux dire, Daisy est parti. Lance et Bobby sont plus là non plus. Je veux dire, ok, on a tous versé notre larme quand on leur a dit adieu dans la série avec cette scène des shots. Mais il y a un moment, faut arrêter. Je veux dire, ils ont complètement gâché l'utilisation de deux acteurs qui étaient de vrais assets pour la série. Donc moi j'aimerais qu'ils les reprennent.
Ouais, ça ressemble quand même à un vilain couac cette histoire hein, de série annulée, relancée, réannulée derrière avec des acteurs qui se font têche. C'est quand même pas très très propre quoi.
Une dernière question se pose à moi, Fasque, que tu veux peut-être pouvoir y répondre, mais est-ce que tu penses pas que justement cette promesse de Most Wanted et cette annonce n'était pas un moyen de dynamiter la série tout simplement en fait?
Mais pourquoi?
Parce que certains exés n'aiment pas Agents of S.H.I.E.L.D., certains exés n'aiment pas les séries ABC, tout simplement. Et qu'il était plus facile d'annuler John Carter, qui avait moins de succès, moins de fanbase, que d'annuler Agents of S.H.I.E.L.D., qui a fait une excellente saison malgré tout.
Je sais pas, je pense que c'était plus un plan qui a tourné court et qui se sont rendu compte que finalement, produire une série supplémentaire en spin-off, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais du coup, moi, je pense qu'on va clairement les revoir en saison 4. J'en suis quasiment convaincu. Et j'espère, en tout cas, qu'ils vont pas nous faire le coup de nous ressortir un énième vilain avec la gueule de Brett Dalton. Ça m'arrangerait. Parce que sinon, ça manquerait quand même un petit peu d'inspiration pour rester poli.
Il troll déjà suffisamment sur Twitter au Lincoln Memorial.
C'est ça, oui.
J'adorais cette photo.
Bref, voilà donc bilan et spéculation concernant Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3 et la future saison 4. Si vous avez des idées, des pistes, voire des envies, n'hésitez pas à nous les partager. On en fera l'écho si possible dans notre prochaine séance de Theory Crafting.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale de ce 24e épisode de Clairvoyant, et on va aller faire un tour puisqu'on vient d'en parler du côté des Agents of S.H.I.E.L.D. avec un extrait de la BO ciné Bear McCreary. Tu nous as choisi quoi, Monty Fox?
J'ai choisi Agents of S.H.I.E.L.D. Overture, qui est...
Tu peux me la refaire?
Agents of S.H.I.E.L.D. Overture.
Nice.
J'ai travaillé en accent anglais, t'as vu, hein?
Je vois ça, ouais.
Si, Ragnarok. Non, mais j'ai choisi l'ouverture de générique principal Agents of S.H.I.E.L.D. en fait, qui va très bien avec le Theory Crafting qu'on vient de faire et qui va très bien avec le focus sur le S.H.I.E.L.D. qui va suivre. Exactement. Et c'est un très bon morceau de Bear McCreary. Donc
voilà, l'Overture, donc Overture, comme dit Fox, d'Agents of S.H.I.E.L.D., un signé Bear McCreary. On écoute ça tout de suite. We'll be right back. Agents of S.H.I.E.L.D. Overture, tiré donc de la bande-son de la série télé ABC Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Et c'était signé Bear McCreary, la sélection de Fox pour ce mois-ci. Et on va passer tout de suite à notre focus, où on va justement parler du S.H.I.E.L.D.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, la voix de notre cher Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus. Alors on fait d'habitude un focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics pour essayer de vous en apprendre un petit peu plus sur l'univers des bandes dessinées Marvel. Cette semaine, ce mois-ci plus exactement, on a décidé de vous parler du S.H.I.E.L.D. On l'avait pas encore fait, on avait commencé notre podcast par un focus sur Hydra et on s'est rendu compte qu'on avait parlé de Nick Fury, on avait parlé de Black Widow, on n'a pas parlé du S.H.I.E.L.D. de manière générale. On s'est dit qu'il fallait réparer cette erreur et on va donc vous proposer de découvrir la création et on va parler vaguement des diverses formes qu'a pu prendre l'organisation dans les différents comics, mais on va essayer de s'en tenir à une seule et unique version, mon cher Fox, donc du S.H.I.E.L.D. créé par l'incontournable Stan Lee et le tout aussi incontournable Jack Kirby.
Eh oui, première apparition du S.H.I.E.L.D. en août 1965 dans Strange Tales numéro 135. Alors la signification de l'acronyme a été changée entre temps, maintenant c'est le Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. Mais c'était pas le nom de départ, et ça on va le découvrir de suite, parce que ça a été créé à l'époque, c'était une idée de Nick Fury, parce que pendant son service durant la Seconde Guerre mondiale, Nick a planifié la création d'une agence de contre-espionnage qui serait gérée par le gouvernement américain. Et à l'époque, il avait créé le S.H.I.E.L.D. sous le nom de Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division.
D'accord.
Donc c'était le quartier général suprême, espionnage international, force d'intervention légale et division, tout simplement. Donc c'est en français, ça donnerait un truc totalement illisible.
Comme dirait Ward dans le pilote d'Agents of S.H.I.E.L.D., quelqu'un avait vraiment très envie que le nom signifie
voilà.
S.H.I.E.L.D.,
enfin, voilà,
soit abrégé en S.H.I.E.L.D.
Il fallait y chercher un acronyme intéressant.
C'est ça.
Mais Fury va juger l'idée beaucoup trop ambitieuse et pense qu'elle n'intéressera pas le gouvernement à cause des coûts et des moyens nécessaires pour sa création. Et en fait, un groupe de personnes travaillant pour les Nations Unies va avoir à vendre son projet et va le transmettre aux responsables américains sans en informer Nick Fury. Et le S.H.I.E.L.D. va prendre forme avec pour objectif principal de contrer la montée en puissance des groupes terroristes comme Hydra, par exemple, ou Leviathan et d'autres qui vont suivre. Mm-hmm. Et un vétéran qui a combattu avec Nick Fury et avec qui il a eu plein de différends, Rick Stoner, va être nommé le premier directeur du S.H.I.E.L.D. en fait.
C'est un perso qu'on n'a pas du tout vu dans le MCU, ça.
Non, ça non. On a déjà un S.H.I.E.L.D. tenu par Fury parce que c'est le S.H.I.E.L.D. de ces, on va dire, 40 dernières années, quoi.
C'est le S.H.I.E.L.D. d'Ultimate, en fait, surtout.
C'est ça, voilà, aussi. Rick Stoner va être assassiné par un agent d'Hydra pendant qu'il cherche une taupe, en fait, infiltrant son organisation. Et avant de succomber, il va envoyer un message à Tony Stark pour le mettre au courant de ses découvertes afin que ce soit traité et que la fuite soit colmatée au sein du S.H.I.E.L.D., en fait. Et quelques années plus tard, Fury, qui est toujours pas intégré au S.H.I.E.L.D. et qui n'en fait toujours pas partie, bosse pour la CIA. Et on va venir le chercher, en fait, pour prendre la place de directeur public du S.H.I.E.L.D., d'être le vrai visage public de l'organisation. Mais même en tant que directeur, Fury va pas avoir la main du tout sur son organisation, parce qu'il va devoir répondre au Supreme International Council, qui est donc le conseil suprême, comme on l'a dans Avengers, par exemple, ou dans Captain America Civil War, Captain America, pardon.
Ouais, qui est le World Security Council, en fait, dans les films du MCU, en fait.
C'est le conseil mondial du MCU, tout à fait. Composé de membres fondateurs du S.H.I.E.L.D., mais personne ne voit pas leur visage, en fait. Là où on le voit un petit peu dans les films, à l'époque, le S.H.I.E.L.D., c'est des visages qui sont masqués et ils dirigent toutes les activités et toutes les actions de l'organisation. Et l'agence travaille plus à ce moment-là pour le gouvernement américain, mais sous la tutelle des Nations Unies, qui vont fournir les moyens financiers et technologiques nécessaires à faire fonctionner tout le bousin, en fait.
D'accord.
Sur tout ça, donc c'est une agence qui travaille pour l'ONU et qui est dirigée par des membres fantômes qui sont plus ou moins intégrés dans l'ONU.
D'accord.
Le S.H.I.E.L.D. est extrêmement hiérarchisé et compartimenté, donc il va fonctionner avec un système de rangs. Donc ça, on connaît un petit peu, c'est les rangs classés de 1 à 10.
C'est ça, oui, c'est les levels, le fameux level 7, etc. Oui.
C'est ça, et Fury ne va avoir que le rang 8 au départ, et beaucoup plus tard, il aura le rang 10, qui va lui permettre justement de créer ses propres bases planquées et le reste, en fait.
D'accord.
À quelques exceptions près, les membres de l'agence, c'est tous des humains normaux. Ils sont divisés en équipes, le rôle est étendu et comprend maintenant, il y a l'intervention dans les situations dépassant les autres agences mondiales, donc toutes les activités liées au pouvoir, les groupes comme Hydra, l'espionnage, les groupes terroristes qui veulent voler par exemple des artefacts ou ce genre de choses. Et on va installer évidemment les bases d'opération, et la base d'opération principale, ce sera le Helicarrier, qui permet d'avoir un QG mobile et en en même temps, d'autres centres comme le Shield Central qu'on a vu dans Captain America Winter Soldier, par exemple, ou le Raft qu'on a vu dans Civil War. Donc cette
le Shield
prison,
Central, c'est Triskelion ou bien c'est encore autre chose?
Le Triskelion est une sorte de Shield Central, en fait. C'est le Triskelion, après, ça a été séparé. Mais c'est, si tu veux, c'est à peu près la même chose. C'est des grands bâtiments centraux du Shield où sont, par exemple, regroupés les datas. Le Raft, ça reste une prison. Donc le Raft, c'est cette prison qu'on a vue dans Civil War, espèce d'énorme bouée métallique qui sort de l'eau. Voilà, ça, ce sont plusieurs des bâtiments du Shield. Plus, et après, on compte pas toutes les bases secrètes du Shield, plus les bases secrètes que Nick Fury a créées après avoir eu l'accréditation niveau 10, en fait.
Alors, il y a aussi eu une diversification au sein du Shield. Il y a eu plusieurs sections, en fait. On en a vu quelques-unes déjà dans le MCU. On en a eu une, en tout cas, dans le MCU, c'était la Strike Force, mais il y en a eu d'autres qui sont plus importantes dans les comics, dont une dont on a déjà vaguement parlé, qui était dans les bonus, si je me souviens bien, dans les scènes coupées du premier Thor, hein, qui est le Sword.
C'est ça.
Qui est un groupe qui a été créé par Joss Whedon, en fait, dans les comics X-Men.
C'est ça. Whedon avait créé le Sword, on lui avait demandé s'il voulait créer
une sorte de Shield de l'espace, en fait.
C'est le Shield de l'espace, en fait. C'est le Sentient World Observation and Response Department. Ça, c'est celle qui a été créée au même temps qu'X-Men avec Whedon. Mais il existe aussi le Armor, le Altered Reality Monitoring and Operational Response, qui, lui, est chargé de travailler sur les dimensions. Donc, ils peuvent traiter avec Asgard s'il y a besoin. Ils peuvent traiter surtout avec les dimensions parallèles et les ennemis qui ont la capacité à voyager dans les dimensions et ce genre de choses. Et il y en a une autre, le Wand. Donc, qui signifie baguette, c'est Wizardry, Alchemy and Necromancy Department.
Alors, les mecs et leurs acronymes, quoi.
Mais les mecs, ils ont quand même trouvé des bons trucs, hein. Et ça, c'est une unité qui est dédiée à la magie pure, donc qui est une unité, par exemple, qui pourrait traiter avec Strange, avec d'autres personnages, dont Scarlet Witch, par exemple, même si dans le MCU, elle est plus sur les probabilités et la physique que la magie pure.
Alors les bad guys, on va pas vraiment s'y attarder parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Il y a bien évidemment Hydra qu'on a détaillé dans notre premier podcast et AIM donc qu'on pourra présenter à l'occasion. On pourra peut-être faire un focus, même si effectivement sa présence dans le MCU a été très brève, hein, puisqu'on en a juste entendu parler dans Iron Man 3 et on les a pas revus depuis. Mais il y en a une autre qui est plutôt intéressante et qui quelque part rejoint un peu l'univers de Spider-Man, donc qui pourrait peut-être un jour faire son apparition dans le nouveau MCU. C'est le Hammer.
Le Hammer qui a été créé par Brian Michael Bendis dans Secret Invasion numéro 8.
En 2008, c'est ça?
C'est le 8, c'est Secret Invasion 8, et ça se passe juste après les événements de Secret Invasion. En fait, le Shield de Tony Stark est tenu responsable de la mauvaise gestion de l'invasion Skrull. Tu sais, t'as des mecs qui peuvent se transformer en n'importe qui, mais c'est la faute de Tony, quelque part.
Bien sûr,
c'est toujours la faute de Tony, parce qu'il a encore fait de la merde. Et donc, du coup, Tony étant mis sur la touche, c'est Norman Osborn qui va être pris pour le héros du peuple. C'est lui qui est le roi des FDP, mais c'est pas grave. Et on va le mettre à la tête de l'agence, donc à la tête du Shield, qui va dissoudre très peu de temps après, et il va monter le Hammer. Et en fait, il va utiliser sa nouvelle organisation, notamment, par exemple, il y a les Thunderbolts, dont on a parlé post-Civil War aussi, qui était dirigé par Osborn, qui va prendre le costume d'Iron Patriot, justement.
Il va pas y avoir une histoire de Dark Avengers aussi avec Hammer?
C'est encore autre chose, les Dark Avengers, mais oui, c'est à peu près ça, si tu veux. C'est son agenda. Il va commencer par faire le Hammer. Il va y avoir les Thunderbolts au milieu. Puis tu vas avoir les Dark Avengers en plus. Il a choisi de faire de la merde. Mais le mec, ça s'est très bien débrouillé. Il a utilisé les erreurs de Tony pour monter le Hammer. Et il va utiliser cette organisation pour faire toutes les saloperies qu'il veut, quoi.
Alors, aucun rapport évidemment avec Justin Hammer, hein, pas confondre.
Non. Lui, Justin Hammer, il existe aussi, mais c'est un loser.
On a déjà vu dans le MCU, donc c'est pour ça que je précisais. Est-ce qu'on peut faire un rapide profil de nos amis du Shield? Une petite présentation peut-être un peu plus psychologique de l'agence.
Alors, c'est assez simple, parce qu'ils ont une face publique d'un côté, mais la plupart des actions menées par le Shield restent sous couvert. Donc,
Black Ops. Hein.
Voilà, c'est des vrais Black Ops. Il y a une face publique avec des gens en costume, des gens qui parlent, qui présentent des actions contre des humains, et puis toute la partie super-héroïque est vraiment souvent planquée pour justement pas affoler les populations, quoi. Ils sont habitués à agir dans l'ombre. Chaque agent est habitué à utiliser des méthodes que d'autres n'envisageraient pas, c'est-à-dire que les mecs sont quand même capables de faire des trucs que la plupart des agents du FBI ou de la CIA ou de la NSA ne feraient pas, quoi. C'est des soldats, hein. Faut pas oublier, ce sont des soldats avant tout, quoi. Tout comme l'homme qui en a eu l'idée, c'est-à-dire Fury, le Shield est une organisation où la confiance se gagne durement, en fait. C'est les informations circulent que si nécessaire. Le système de rang permet de tout compartimenter en évitant un maximum maximum les fuites. L'agence a été la cible d'attaque, par exemple, à chaque fois, que ce soit Hydra, que ce soit plein d'autres personnages, mais tout le monde a essayé de détruire à un moment le Shield. Mais à cause des, grâce aux nombreuses safe houses qu'on voit dans Agents of Shield, justement, ces bases planquées qui sont cachées même aux plus grands des agents, ben le Shield peut toujours continuer à opérer dans l'ombre et préparer son retour avec du matériel, avec des forces vives, avec un endroit safe qui permet de continuer son exercice, quoi.
D'accord. Et puis on en a parlé tout à l'heure dans le Theory Crafting, hein, une des créations la plus connue du Shield et plus particulièrement de Nick Fury, ce sont les fameux LMD dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça, les Life Model Decoy, qui sont des androïdes créés pour remplacer une personne et dans le but de protéger ou d'infiltrer l'ennemi, en fait. C'est autant un atout qu'un danger. Ça, faut bien le dire, parce qu'un Life Model Decoy, s'il est reprogrammé, bah, tu te retrouves avec un agent, tu sais pas si c'est le vrai ou pas. L'invention a augmenté énormément le côté secret et sans confiance du Shield, parce qu'on compartimente plus, on programme un Life Model Decoy pour effacer les données qu'il reçoit une fois qu'il les a transmises, en fait. Et c'est quelque chose que je pense qu'on verra arriver petit à petit dans la saison 4, et j'espère que ce sera quelque chose d'intéressant là-dessus.
Ouais, pareil. Bon, alors sinon, du côté du Shield, on a eu Nick Fury, bien évidemment, à la tête de l'organisation, mais il y a eu d'autres personnalités célèbres qui ont pris le flambeau.
C'est ça, bah il y a eu Tony, hein, qui a foiré avec l'invasion Skrull de Secret Invasion. Il y a eu Maria Hill, évidemment, et puis il y a eu Maria Hill, quoi, qui est plus modérée que Fury, mais qui reste quand même une nana super droite dans ses bottes et qui, elle, par contre, veut avant tout laver la réputation de l'agence et faire marcher quelque chose de très droit et de peut-être plus en lumière que Fury ne voulait le faire.
Il n'y a pas eu Bruce Banner aussi à un moment à la tête du Shield
Dans les Ultimates, il y a eu Banner, il y a eu plusieurs autres personnages, mais c'était toujours très court, en fait.
D'accord.
Banner a été directeur du Shield ça a pas duré même pas un an, quoi.
Dans mon souvenir, c'était au tout début des Ultimates, mais je peux me tromper parce que ça fait
longtemps
que je les ai
vus. C'est au tout début des Ultimates, c'est ça. C'est dans le, je me souviens, je crois que c'est même dans la première série Ultimate.
C'est ça.
Et il va être très vite détrôné, et c'est Stark qui va reprendre la main avec au début Reed Richards qui essaye de faire des trucs, et puis Hank Pym qui va vouloir faire de la merde, et puis après le shield d'Ultimate dirigé par Stark est super intéressant, parce que on voit quand même pas mal de la vision de Stark dans Civil War, en fait. Sa manière de gérer les choses, son côté un peu nonchalant et au final totalement paniqué à l'intérieur.
Alors, comme il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on fasse vite le point sur l'état du Shield dans le MCU, parce que c'est pas super clair.
Il n'existe
plus officiellement, mais officieusement dans la série télé, il existe encore et il fait des Black Ops pour le compte du gouvernement. Mais dans les films, c'est clairement fini, enterré, dissolu.
Dans les films, le Shield n'existe plus. Le dernier rapport qu'on a eu avec le Shield est dans Age of Ultron, où Nick Fury s'est pointé avec le Helicarrier pour sauver les gens de Sokovie. Pour essayer de sauver des gens en Sokovie, de les rapatrier vers le Helicarrier, alors que le morceau de ville était en train de monter dans le ciel. Officiellement, pour le MCU, puisque Agents of S.H.I.E.L.D. fait partie du MCU, le S.H.I.E.L.D. n'existe plus, il fonctionne sous couvert de la TCU.
C'est ça.
Coulson était directeur du S.H.I.E.L.D. Et directeur de la TCU, mais le visage de la TCU jusque-là, c'était Talbot.
Et dans la saison 4, a priori, il ne sera même plus directeur du S.H.I.E.L.D.
Dans la saison 4, il n'est plus directeur du S.H.I.E.L.D. On ne sait pas à qui le S.H.I.E.L.D. a été confié. Ce n'est pas Talbot non plus, apparemment.
Ah, moi, je mise sur Maria Hill.
Ah, ce serait bien. Bah, de toute façon, on aurait eu. Ça me ferait marrer que ce soit Tony Stark.
Oui, moi, j'en doute quand même. Je vois mal Robert Downey Jr. débarquer dans une série télé. Ou alors, peut-être juste en caméo au début, ce qui sera un petit peu gratuit.
Bah, s'il débarque autant que Nick Fury, tu vois, on l'a vu 3 fois en 3 saisons, quoi.
Et en allant vite encore.
Et en allant vite. Non, mais quand je dis 3 fois, c'est la blague de l'aquarium.
C'est ça.
Et 2-3 bricoles. C'est si donné apparaît autant, ça reste un directeur qui envoie des ordres et à qui on peut répondre et à qui on peut parler. Au pire, il enregistre une voix off quand il y a un message, tu vois, ça lui prend 5 minutes. Donc ce sera soit Stark, soit Hill, à mon sens, à moins qu'il nous ait foutu ça sous l'égide de Thunderbolt Ross, juste histoire de nous faire chier, en fait. Et là, je deviendrais fou allié, mais c'est pas grave.
Bon, voilà qui clôture ce focus sur le Shield. Donc, on vous invite à aller réécouter les focus sur Hydra pour avoir l'envers de la pièce, et puis aussi écouter celui sur Nick Fury qu'on vous a servi le mois dernier, celui sur Black Widow qu'on vous a servi il y a quelques mois maintenant, 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Vous irez voir tout ça sur le site de Geekzone. Le mois prochain, je sais pas encore de quoi on parlera, on verra. Si vous avez des suggestions, des envies d'en apprendre plus sur certains personnages. Alors je sais qu'on nous a beaucoup demandé de parler du Baron Zemo. Alors on vous l'avait déjà expliqué la dernière fois, mais le Baron Zemo des films en fait n'a finalement pas grand chose à voir avec le personnage des comics, donc on voyait pas trop l'intérêt de vous faire un focus sur le perso des comics, mais manifestement il y en a que ça intéresse, donc on va peut-être y réfléchir. On verra, en tout cas on vous tient au courant.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis Drop My Needle, troisième et dernière pause musicale tirée du MCU. On en parlait tout à l'heure puisqu'il fera son grand retour pour Infinity War. Alan Silvestri signe également l'excellente bande-son du premier film Captain America et on va écouter un extrait tout de suite, un extrait que j'ai choisi et qui s'appelle Troop Liberation. Troop Liberation. À l'instant, c'était Alan Silvestri sur la BO du premier Captain America.
He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets.
Marvel Insider, c'est notre rubrique dans laquelle on vous fait des recommandations de lecture, en règle générale en rapport avec le focus, donc on va vous parler du Shield. Petit souci, c'est que le Shield, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, on vous a déjà fait des recommandations de lecture, du coup on n'a pas grand chose de neuf à proposer ce mois-ci, Thomas, mais t'as quand même été nous dégoter une série qui date de 2011.
Ah, j'ai eu du mal parce qu'il y a vraiment rien de foufou, et au final j'ai réussi à dégoter ça, donc ça s'appelle Shield Architects Forever, pardon, sorti en 2011, ça a été écrit par Jonathan Hickman.
L'excellent
Jonathan Hickman. La série est tout aussi excellente d'ailleurs, et ça a été illustré par Dustin Weavers, qui a surtout bossé sur des X-Men, qui moi j'aime beaucoup ce qu'il dessine. Alors accrochez-vous à votre meilleur drogue, parce que le pitch est assez costaud. Donc on est habitué au Shield créé pendant la Seconde Guerre mondiale par Nick Fury, comme on en a parlé tout à l'heure. Et Hickman, il est parti du principe qu'en fait non, ça existait depuis des milliers d'années. Ça a été fondé par Imhotep. Donc ils ont même job, hein, protéger la Terre contre toutes les menaces un peu farfelues. Et du coup on a deux membres qui sont quasi immortels, donc Léonard de Vinci et Isaac Newton.
Putain,
voilà, ça se pose là. Ça fait un peu un genre de Civil War, dans le sens où on a De Vinci qui est convaincu que la race humaine va totalement droit dans le mur et qu'à un moment faut arrêter les frais. Et Newton de son côté qui pense que non, faut continuer, il y a des trucs à sauver. On retrouve mêlé à cette histoire deux paternels plutôt connus, puisqu'on a Howard Stark et Nathaniel Richards, donc le père de Tony Stark et le père de Mr. Fantastic, Reed Richards, qui se retrouvent un peu englobés dans cette histoire qui va n'importe où. On apprend que ils ont été à monter Shield, il y avait des membres comme comme on l'a vu tout à l'heure, comme Da Vinci, Newton, des noms historiques un peu partout.
Mais alors du coup, est-ce qu'on nous explique ce que voulait dire Shield à l'époque ou pas du tout? Parce que ça m'intrigue à l'époque d'Imhotep, que voulait dire le Shield?
Alors non, c'est juste, c'est pas un acronyme pour une fois.
D'accord.
C'est juste un genre de société secrète qui a pris le nom de Shield en tant que bouclier, justement.
Ok, d'accord. Plus bon, on revient au sens littéral, ouais, tout à fait.
Voilà. Donc après, concernant la série, moi c'est une série que j'aime bien, parce que déjà, le pitch est un peu barré, mais quand même reste bien écrit. Hickman, hein, il assure son truc. Et surtout, si on est habitué au Shield classique, entre guillemets, qui peut être un peu gonflant des fois. Ça fait du bien de le saupoudrer un peu de persos comme ça qui sortent de nulle part et qui restent tout aussi intéressants, parce que des personnages historiques, on peut les adapter facilement aux séries. Donc moi, c'est une lecture que je conseille.
Shield Architects of Forever, donc sorti en 2011, signé du un peu barré Jonathan Hickman, mais qu'on aime beaucoup ici au Clairvoyant. Peut-être parler d'une série dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Nick Fury versus Shield, puisqu'on se souvient que c'était un peu la trame du deuxième film Captain America au Cinoche.
Oui, c'est ça. Donc on en a parlé le mois dernier sur le focus qu'on a fait sur Nick Fury. C'est un arc intéressant pour le Shield, parce qu'on découvre un peu comment il fonctionne à l'intérieur. On découvre aussi comment ils se font infiltrer quasiment tout le temps, et comment ils gèrent le truc. Ce coup-ci par Roxxon et Hydra, parce qu'une seule entité, c'est peut-être pas assez. Et du coup, non, c'est un arc pour voir un peu le fonctionnement du Shield, voir comment ils sont comportementalisés, comment ils gardent les secrets, en fait. C'est une lecture aussi à conseiller, ouais.
Alors, on vous invite là aussi à aller réécouter les recommandations de lecture qu'on avait fait pour Nick Fury et qu'on avait fait pour Black Widow, puisque ça vous aidera aussi à en apprendre un peu plus sur le Shield. On vous conseillera de ne pas aller voir du côté de la série 616 Agents of Shield, qui est plutôt, on va dire, un calvaire. D'accord, voilà, tu en dis long. Mais on va en revanche répondre, alors on n'est pas dans la rubrique courrier, mais on va en profiter pour répondre quand même très très vite à une question qui nous avait été posée il y a assez longtemps et à laquelle on n'a pas encore pu répondre, où on nous demandait des conseils de lecture pour le coup on sort un peu du MCU, et ça concerne la série donc Avengers versus X-Men. Qu'est-ce que tu as comme reco de lecture à faire de ce côté-là?
Voilà, en fait donc c'était Johanny qui nous a posé la question, parce qu'elle est en train de lire l'arc et elle est un peu perturbée par tout ce qu'il y a autour de Scarlet Witch, du Nomor Mutant, etc. Donc du coup, j'ai pas parlé de toutes les ramifications, mais plutôt m'orienter sur Scarlet Witch. Les arcs intéressants à lire, donc avant Avengers vs X-Men, surtout centralisés autour de Scarlet Witch, on va avoir Avengers Disassembled, où elle se fait un peu contrôler. Là, elle devient totalement barjo, elle se fait un peu contrôler. C'est elle qui sera le résultat, en fait, de l'éclatement des Avengers, même de la mort de Vision, qui est son mari, on le rappelle. Où elle va commencer à s'enfermer dans une bulle, où elle va se créer un enfant imaginaire qu'elle va perdre aussi. Elle va devenir vraiment, vraiment frappadingue.
D'accord.
Pour enchaîner direct directement sur House of M, où là, elle a construit toute une réalité vraiment où tout se passe bien, c'est une utopie vraiment, tout le monde est content, tout le monde s'aime, etc. Il y a quand même une force pour traiter les esprits un peu rebelles. Et c'est là, en fait, que va arriver le, donc je laisserai découvrir, je vais pas le spoiler, mais c'est là que va arriver le fameux No More Mutant qui signera la fin des mutants, sauf quelques-uns. Et donc, qui sera ensuite repris sur l'arc Avengers versus X-Men.
Voilà de quoi vous occuper donc côté lecture avec ces quelques recommandations concernant le Shield et puis concernant aussi, pour le coup, on a fait une petite incartade, mais Avengers versus X-Men. Merci Thomas.
Mais de rien.
LPD, il y a une lettre pour vous. Tenez, bonne bourre. Pauvre con, hein.
Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, celle du courrier, où on tente tant bien que mal de répondre à vos questions lecteurs, enfin auditeurs plus exactement, je fais la même erreur que Pipo, tiens. Néofisk sur Twitter qui nous dit « En 7 ans de 3, a-t-on une chance d'avoir un jour un bon jeu vidéo inspiré du MCU à l'instar de la série Batman Arkham chez DC ?» Alors, on va déjà faire une distinction entre jeux Marvel et jeux MCU. Il y a des jeux Marvel qui sont pas trop mauvais.
Marvel Heroes fonctionne très
Marvel
bien.
Marvel Heroes, a priori, fonctionne plutôt pas mal. Bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un jeu vidéo inspiré du MCU, pour le moment, il n'y a rien en dehors des adaptations toutes pourries que faisait Gameloft sur les films Marvel Studios.
Il y a eu Captain America, Iron Man.
Oui, c'est ça, donc on va éviter d'en parler parce que c'était vraiment de la merde. Mais en revanche, on avait eu chez THQ, je crois, un développement de jeux vidéo. C'était un FPS sur les Avengers, en fait, un first person shooter, où il y avait eu d'ailleurs du footage qui avait leaké à l'époque.
Et
donc si vous voulez, vous allez sur YouTube, chercher The Avengers FPS et vous allez voir des images du jeu qui avait l'air plutôt cool. A priori, ils ont eu pas mal de problèmes de développement et puis THQ, ayant eu le destin qu'on connaît, ils ont dû abandonner le projet et on n'a plus de nouvelles d'une adaptation sérieuse, en tout cas, de films MCU en jeu vidéo.
Au niveau du jeu vidéo aussi, il y a eu des grands changements au sein de Disney entre fin avril et mi-mai, puisque Disney s'est séparé fermé Avalanche Studio et c'est par exemple arrête Disney Infinity. Donc si vous avez des figurines MCU, genre des Hulkbusters, tout ça qui vous intéresse, mais alors que vous en avez rien à battre de Disney Infinity, ils sont en train de les solder partout, notamment chez Amazon, faites-vous plaisir. Mais ils vont passer chez d'autres éditeurs, donc dans les prochaines années, il se pourrait qu'ils fassent des jeux de films, mais ce sera licencié et ce sera plus Disney qui développe en interne et ce sera certainement pas des trucs grandiloquents, malheureusement, parce qu'il y a une loi, c'est la loi du film transformé en jeu, c'est généralement de la merde.
Voilà, tant qu'on laisse pas ça dans les mains de Gameloft, moi tout me va. Alyosha sur Twitter, et ce sera la dernière question pour ce mois, qui nous dit « Les projets de TV Marvel Damage Control, Empire of the Dead et Hellfire Club vous semble-t-il avoir une chance d'aboutir ?» Bah oui, pourquoi est-ce qu'ils auraient pas de chance d'aboutir ? Alors on va juste préciser un truc, c'est que Empire of the Dead, c'est une série adaptée d'un comics Marvel, mais qui est pas du tout dans l'univers Marvel ou dans le MCU, c'est une série de zombies. Donc pour le coup, ça a pas vraiment de pertinence d'en parler ici. Damage Control, bah oui, on sait que la série est en développement chez ABC, et pour le moment, contrairement à Most Wanted, il n'y a pas eu d'annonce d'annulation. Damage Control, donc on vous rappelle, cette série assez rigolote, qui devrait être un format 20 minutes humoristique, qui traiterait en fait de tout l'aftermath, en fait, donc tout ce qui se passe après les grosses bastons dans les films, avec les mecs qui sont chargés de nettoyer, de payer les assurances et compagnie.
Et de reconstruire.
C'est un comics qui existe vraiment, il y a eu 3 séries en fait assez courtes, à chaque fois de 4 ou 5 issues, c'est assez drôle.
On les voit beaucoup dans Ultimate et dans la saga... World War Hulk et Planète Hulk, enfin surtout World War Hulk, en fait, quand il débarque sur Terre et que le Damage Control est là, il fait oh merde.
Voilà, donc Damage Control, c'est a priori prévu sur ABC Family, dont j'ai oublié le nouveau nom, mais ça devrait a priori aboutir, parce que pour le moment il n'y a pas eu d'annonce contradictoire en tout cas. Et puis Hellfire Club, ben, c'est une de ces deux collaborations entre Fox et Marvel Television, donc il y a Legion et Hellfire Club, deux séries qui devraient débouler sur la Fox normalement très bientôt. Là aussi, pas de raison que ce soit annulé pour le moment, en tout cas il n'y a pas eu d'infos contradictoire.
C'était en bonne voie pour Legion et Hellfire. Mais
voilà, on sait juste que a priori Legion ne se déroulerait pas dans l'univers des X-Men films, et que donc a priori la Fox a décidé de scinder ses univers télé et ciné. Est-ce que ça fait partie du deal avec Marvel Studios de ne pas être attaché aux X-Men ? On en saura probablement jamais le fin mot. Mais en tout cas, pour répondre à la question d'Alyosha, aucune raison que ces séries n'aboutissent pas, en tout cas avec les infos qu'on a pour le moment, on peut difficilement vous dire le contraire, et moi j'attends beaucoup Damage Control là. Et c'est déjà la fin de ce 24e épisode des Clairvoyants. On espère que ça vous aura plu, on espère que vous en aurez appris un peu plus sur l'univers des comics et des films Marvel. On se retrouve le mois prochain avec Fox et Archeon pour vous parler encore de Marvel. Pas d'idée sur le Focus 1, comme je disais tout à l'heure, on n'a encore rien défini.
On va voir, il y aura peut-être des infos qui vont tomber juste avant la Comic Con, donc dans le courant du mois de juin, on va voir ce qui peut se tramer un petit peu.
Peut-être enfin l'identité du bad guy de Doctor Strange.
Ce serait bien.
Ça serait l'occasion d'en parler.
Ce serait bien.
En tout cas,
un focus sur ce bad guy.
Si vous avez des suggestions de focus que vous voulez qu'on fasse sur des persos, des organisations, des arcs, des comics, n'hésitez pas à nous demander. On fera un peu le tri dans vos suggestions. Et puis on vous rappelle aussi que sur Geekzone, on a un thread dédié au MCU dans lequel on spécule allègrement depuis maintenant un millier de pages. Je crois que c'est devenu un peu n'importe quoi ce thread.
On a dépassé les 1000 pages.
Et si vous aimez Geekzone, eh bien n'hésitez pas à aller mettre votre petite pièce sur le Patreon, hein, puisqu'on a un Patreon. On fonctionne par financement participatif, qui nous permet donc de manger des pâtes et d'enregistrer des jolis podcasts. Donc n'hésitez pas à aller rajouter quelques dollars au Patreon mensuel, ça nous ferait grandement plaisir. Et puis quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants. Ciao Fox.
Des bisous Fox, des bisous pour vous.
Ciao Thomas.
Ciao tous les deux.
Ça tourne chez toi ou pas?
Ouais, ça tourne déjà moi chez moi.
Okay.
Ça tourne depuis 3 minutes chez moi.
Oui, bah ça va. Hein.
Non, je dis juste que tu as le rapport en tête, pardon, c'était pour t'indiquer le time. Me gueule pas
dessus. Ta gueule, Fasque. Alors, le courrier.